Alors, on a décidé aujourd'hui d'organiser une journée spéciale sur le thème de la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai, on ne sait pas à quelle date est né le Seigneur. Probablement pas en décembre. On ne pense pas que ce jour non plus soit particulier. La parole de Dieu ne nous demande pas de fêter ce jour d'une manière particulière. Par contre, on le voit autour de nous. Dans le monde, on est entré dans une période qu'on appelle Noël. Et le monde va fêter un certain Noël sans que ça ne change rien à sa vie. La plupart de nos contemporains, d'ici une semaine, vont se réunir, ils vont partager un bon repas, peut-être, s'offrir des cadeaux. Mais il y en a qui vont rester aussi très seuls pendant ces moments-là, et ça sera peut-être douloureux pour eux. Mais pour la majorité de nos contemporains, dès le 26, tout redeviendra exactement comme le 24. Les guerres vont reprendre, le travail aussi. Les familles qui se sont unies vont se séparer. Alors pourquoi faire quelque chose de spécial aujourd'hui? Eh bien pour une raison qui est à la fois historique et biblique. Une raison historique parce que depuis près de 2 millénaires, cette période sert à se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Et ça c'est vrai dans une grande partie du monde. Et puis une raison biblique aussi, parce que la Bible nous ordonne de nous exhorter les uns les autres, de nous souvenir de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 2,8, il écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et on doit aussi saisir chaque occasion qu'on a pour parler de lui et en témoigner au monde qui nous entoure. Donc voilà pourquoi faire quelque chose sur le thème de la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Pendant quelques semaines, on va mettre de côté l'Épître aux Corinthiens qu'on n'a pas encore terminé. Et aujourd'hui, on va lire le texte qui a été choisi comme thème de notre journée. On a parlé, là, dans la première partie, du retour du Seigneur, de sa seconde venue. Et là, on va lire un passage qui concerne sa première venue. Donc, Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vais relire les versets 6 et 7, sur lesquels je vais insister particulièrement. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est le verset thème que nous avons choisi pour cette journée. Il n'y avait pas de place pour eux. C'est quelque chose qui est étonnant quand on y réfléchit, quelque chose qui est même choquant, parfaitement scandaleux. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va prendre quelques instants pour faire fonctionner notre imagination et on va essayer de se représenter Joseph. Joseph avec sa fiancée, Marie, qui est enceinte. À vol d'oiseau, il y a une bonne centaine de kilomètres qui sépare Nazareth au nord, de Bethléem au sud. Je dis à vol d'oiseau parce qu'en réalité c'est un paysage qui est très vallonné, donc au final ça fait beaucoup plus. Ce trajet, ils l'ont parcouru probablement à pied, peut-être à dos d'âne, certainement pas en voiture ni en train. Marie est enceinte. La Bible nous dit qu'elle est proche du terme de sa grossesse, ce qui signifie que ça a été certainement un trajet pénible pour elle. Et donc ils sont arrivés à Bethléem pour ce recensement. Le temps où Marie doit accoucher arrive et ils cherchent un endroit pour s'installer. Bethléem, c'est un village, ce n'est pas une grande ville. Il n'y a peut-être même qu'une seule auberge, qu'un seul hôtel où s'installer. Il frappe à la porte, le propriétaire ouvre et il demande une chambre pour la nuit, mais c'est complet. Il n'y a pas une seule pièce, pas un réduit, pas un petit coin dans lequel on puisse les loger, même s'ils sont dans l'urgence. Parce qu'ils sont dans l'urgence. Alors, voilà pour parti pour s'installer dans l'étable où Marie va mettre au monde son premier-né, Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît pas les détails de ce qui s'est passé à l'hôtellerie ce jour-là. La Bible ne nous rapporte pas la réaction du propriétaire de cette hôtellerie, ni celle de Joseph, ni celle de Marie. La Bible est silencieuse à ce sujet. Mais ce silence, je crois que c'est un silence qui parle. C'est un silence même qui est lourd de sens. Alors ce matin, je voudrais vous entraîner dans un exercice un peu inhabituel et parler d'une personne que la Bible ne mentionne pas. On va parler du propriétaire de l'hôtellerie. Ce matin, ce propriétaire, il est là sans être là. La Bible n'en parle pas, mais on sait qu'il était là. On ne sait rien à son sujet, on ne sait pas si c'était un homme, si c'était une femme, si c'était un couple. Mais en lisant la suite de l'histoire, on comprend ce qui s'est passé ce jour-là, on le devine au moins. Dans cette hôtellerie, c'était certainement l'effervescence, parce que depuis que l'empereur avait ordonné ce recensement, chaque personne devait aller se faire inscrire dans sa ville d'origine. Et à Bethléem, il y avait des personnes qui affluaient de tous les coins du territoire d'Israël et peut-être même de tout l'Empire, parce qu'il y avait des Juifs qui étaient dispersés dans tout l'Empire. Alors ce recensement, c'est politiquement une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle rappelle que le royaume d'Israël n'est pas indépendant, qu'il est sous la tutelle de l'Empire romain. Mais économiquement, c'est une super nouvelle. Parce que pour Bethléem, il va y avoir plein de monde qui va affluer d'un seul coup. C'est la promesse d'un commerce qui va être florissant pendant quelque temps au moins. Et pour cet hôtelier qui va accueillir toutes les personnes de passage, c'est une bonne nouvelle parce que son chiffre d'affaires va augmenter pendant un temps. Alors quand il y a un jeune couple qui frappe à la porte de l'hôtellerie ce jour-là, on peut deviner que l'hôtelier était très occupé. Il y a beaucoup de monde, toutes les chambres sont occupées, et même si on se réjouit de cette prospérité économique, pour l'instant, c'est le rush. C'est le rush, il y a des tas de choses à faire, il y a l'entretien des locaux. En forçant un peu notre imagination, on peut imaginer les draps à laver, la nourriture à préparer, les bêtes à nourrir et peut-être des clients dont il faut s'occuper. L'emploi du temps est certainement très, très chargé. C'est un peu peut-être la pagaille pour cet homme. J'ai envie de dire que c'est le quotidien. Alors on part au plus pressé. Et je sais qu'il y en a plusieurs entre nous qui vivent ça dans leur quotidien. Des périodes où il faut se donner à 200%, s'investir énormément. Ça demande une organisation rigoureuse. puis pour d'autres, c'est simplement les journées qui s'enchaînent les unes après les autres, le quotidien, des choses normales à faire qui s'enchaînent, mais qui nous laissent à la fin de la journée avec une seule envie, celle d'aller au lit pour préparer la journée suivante qui sera identique à celle qui vient de s'écouler. Alors je ne sais pas quand la porte s'est ouverte sur Marie et Joseph, Marie qui était enceinte, comment l'hôtelier les a accueillis. Certainement comme n'importe quel autre client, peut-être même qu'il a eu un mélange de compassion et de regret pour ces gens, parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de place. Et de la compassion parce qu'il savait que, comme beaucoup, tous ceux qui frappaient à la porte de cette hôtellerie, ils avaient fait de la route, à pied, à dos d'âne. Ils savaient qu'ils étaient fatigués. Et puis du regret aussi, parce que, humainement parlant, si on se met à la place de cet homme, ce serait simplement des personnes qui n'allaient pas pouvoir devenir ses clients. Mais probablement le quotidien a dû reprendre le dessus très vite, parce que la quantité de travail à accomplir ne diminue pas. Peut-être que Joseph et Marie ont insisté, mais l'hôtelier n'avait pas le temps. Il fallait s'occuper des choses vraiment urgentes, entre guillemets, mais sans le savoir, il venait de fermer la porte au Fils de Dieu, simplement parce qu'il n'avait pas le temps. Ce n'était pas des choses mauvaises qui remplissaient son emploi du temps, c'était le quotidien, c'était le travail. Mais ce n'était pas non plus la plus importante des choses. Bien souvent, on s'imagine que travailler pour notre subsistance, c'est la priorité absolue. Avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Mais le Seigneur a dit lui-même, c'est lui-même qui l'a dit, hein, que la vie, la vraie vie, celle qu'il nous donne, est plus que la nourriture, plus que le vêtement, et même plus qu'un toit. Avoir des inquiétudes à ce sujet change rien. Et avoir un emploi du temps chargé, même chargé d'activités qu'on pourrait qualifier de moralement innocentes, ça ne change rien au fait qu'il n'a pas ouvert sa porte pour accueillir celle qui portait le Fils de Dieu. Alors cet hôtelier, il est très occupé, occupé de ses mains, mais il est aussi occupé dans ses pensées. Parce que quand on a beaucoup de travail, quand on est préoccupé, et même de manière générale, nos pensées se dirigent vers ce que nous jugeons être le plus important. C'est normal, on fonctionne comme ça. Et quand Joseph et Marie sont venus pour demander une chambre, à quoi pensait cet hôtelier ? Certainement à son planning de la journée, à tout ce qu'il devait faire, la comptabilité peut-être qui attendait, les courses, les clients qui partent, ceux qui arrivent, et puis une certaine inquiétude, est-ce qu'on va continuer encore longtemps ? Est-ce que cette prospérité va durer ? Ça, reconnaissons que ces pensées-là, on les a tous, plus ou moins. Et c'est normal, parce que dans une certaine mesure, Dieu nous demande de gérer intelligemment un certain nombre de choses. Mais dans le cas de cet hôtelier, le problème, c'est que ces préoccupations-là, son emploi du temps, occupaient toutes ses pensées. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Il n'y avait que son quotidien qui importait, et c'est son quotidien qui l'a emporté dans la balance. Vous savez, souvent, ce qui empêche des âmes de venir à Christ, c'est ce manque de place dans l'emploi du temps, ce manque de place dans les pensées. Il y a une idée à la mode dans notre société, c'est qu'il faut se préoccuper exclusivement de l'instant présent. On appelle ça la philosophie épicurienne, parce que Épicure a dit quelque chose en latin, carpe diem, poétiquement ça veut dire cueille le jour. C'est joli, ça veut dire ne te préoccupe que de l'instant présent, Profite. Ça pourrait presque passer pour une pensée biblique. S'occuper que de maintenant. Mais ce n'est vraiment pas une pensée biblique. Parce que quand le Seigneur nous dit de n'avoir aucune inquiétude, de ne pas nous préoccuper du lendemain, ça n'est pas pour adopter une attitude légère et qui serait presque écervelée. Non, c'est parce qu'il y a derrière cette confiance que Dieu prend soin du quotidien, prend soin de ce qui est nécessaire pour nous, pourvoit à nos besoins. Et toute la vie du Seigneur Jésus a été orientée de cette manière, montrer que Dieu pourvoit. Lui, il n'avait pas de logement, il avait, a priori, pas souvent un repas prêt qui l'attendait, il n'avait pas d'autres vêtements que les siens, et il a vécu de cette manière parce qu'il savait que son Père prenait soin de lui. Et ses pensées ont pu être dirigées vers ce qui est le plus important, aimer Dieu, le servir, obéir à ce qu'il demande. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y en a qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas le temps de penser à l'éternité, pas le temps de lire la Bible, pas le temps de prier, pas le temps de s'intéresser à ces choses. Il y en a qui disent aussi qu'ils sont trop jeunes pour mourir, c'est pas le moment de penser à ça. Et puis il ne faut pas penser à ça, il faut positiver dans la vie. Probablement que dans les pensées de notre hôtelier, il n'y avait pas de place pour ça non plus. Et voilà le Seigneur Jésus qui est dehors, parce qu'il n'y avait pas de place dans un hôtel, pas de place dans un emploi du temps, pas de place dans ses pensées. Il est relégué dans l'étable. Et si le temps de passer dans l'éternité arrive, que ce soit par l'accident, par la maladie, ou simplement parce que le temps a passé et qu'on a pris de l'âge, eh bien, le pas le temps, ça se transforme en plus le temps, trop tard. Il y a un moment où il faut faire de la place pour réfléchir aux choses importantes, pour penser à l'éternité. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais c'était pas sa faute à l'hôtelier s'il n'y avait pas de place, s'il n'y avait plus une seule chambre de disponible. C'est comme ça. Il y avait trop de clients à ce moment-là et trop de personnes qui sollicitaient son attention, c'est tout. Et puis en apparence, qu'est-ce qui distinguait Joseph et Marie de n'importe quel autre client? Même si elle est enceinte. Et puis pour lui faire de la place, ça voudrait dire qu'il aurait fallu déloger un client qui était déjà installé. Ça pose un problème quand même, parce que qu'est-ce qu'il va dire le client? Quelle réputation il va lui faire? Si il avait demandé à un client de partager sa chambre avec ce couple, ou s'il l'avait, de manière un peu plus radicale, mis dehors, quelle aurait été sa réputation ensuite à cet hôtelier? Non, il ne pouvait pas se permettre de déloger un client, même pour une femme enceinte. C'est dans nos vies aussi, comme dans cet hôtel, des fois il y a trop de monde. Et pour que le Seigneur y ait une place, il faudrait déloger quelques personnes de notre entourage qui prennent la place qui devrait revenir au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire le vide autour de soi. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'être entouré est une mauvaise chose non plus. Mais est-ce que la place que nous donnons à d'autres ne devrait pas revenir au Seigneur Jésus? La Bible nous dit qu'il y a des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. On voit ça dans 1 Corinthiens 15, 33. En d'autres mots, il y a des personnes qui nous éloignent de Christ, soit par leur comportement, soit par leurs paroles, soit par leur genre de vie, soit par la place que nous leur accordons dans notre vie, dans notre emploi du temps. Et parfois, certaines personnes que nous fréquentons nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Alors on vient de voir qu'il y avait dans la vie de cet hôtelier pas de place dans son emploi du temps, pas de place dans ses pensées, pas de place dans son hôtel. Mais dites-moi, où allait-il dormir lui ? Le soir venu, où est-ce qu'il allait dormir ? À l'étable ? Non. Est-ce qu'il n'avait pas une place chez lui ? Peut-être pas un lit en plume, hein, mais au moins une paillasse, où il allait pouvoir s'allonger et se reposer. Alors là, on touche à quelque chose de sacré, quelque chose qui est encore plus sacré que le client de l'hôtel qu'on ne peut pas déloger. Mais là non plus, il n'y avait pas de place dans ce lit parce qu'il allait être occupé le soir venu par cet hôtelier, fatigué de sa journée. Et on le comprend. On le comprend quand on a une journée de boulot derrière soi. On est fatigué. Et la seule chose qu'on entend, c'est l'appel de l'oreiller. Mais il n'en reste pas moins que le roi du monde est né dans une étable au milieu des bêtes. Et dans nos vies, on peut parfois être trop absorbé par nos besoins légitimes. Nos besoins légitimes. C'était légitime qu'il aille se coucher dans son lit le soir. Et parfois, on est trop absorbé par nos besoins légitimes pour faire la place au Seigneur, pour donner au Sauveur sa juste place. Au final, on se rend compte que c'est dans le cœur de cet homme qu'il n'y avait pas de place pour Jésus-Christ. Il n'attendait pas Jésus-Christ. Il ne pensait pas à lui, il ne désirait pas sa venue. Ce matin, on a lu l'histoire de deux personnes qui attendaient Jésus-Christ, Siméon et Anne. Et s'il n'y avait pas de place dans l'emploi du temps, dans les pensées, dans l'autel, dans le cœur de cet homme, même pas dans sa propre chambre, c'est parce que son cœur était fermé, peut-être même juste indifférent, sans aller jusqu'à être fermé, était peut-être juste indifférent aux choses de Dieu. Et trop de choses qui l'empêchaient de penser à ce qui est essentiel, à l'éternité, au salut de son âme. Est-ce que vous pensez au salut de votre âme ? Et peut-être que cet homme y a pensé. Peut-être qu'un jour il a été confronté à cette pensée, à l'éternité, à la mort qui inévitablement allait arriver à un moment. L'éternité, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Peut-être que l'idée du jugement même lui a traversé l'esprit un jour. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette idée ? Certainement, trop occupé, il s'est dit « j'y penserai plus tard ». J'y penserai quand j'aurai le temps, quand je pourrai vraiment me poser pour réfléchir à ça, à tête reposée, comme on dit. Oui, mais ce moment, à tête reposée, il vient jamais. Il vient jamais le moment où on a le temps de penser à ces choses-là. Et la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire de la place. Et finalement, il a accordé au Seigneur la même place que celle qu'il avait accordée à ses pensées importantes. Et les a mises dehors, dans un coin. Alors on ne sait pas si l'étable, c'était l'étable qui dépendait de l'hôtellerie peut-être. Il leur a dit, j'ai pas de place à l'intérieur. Il vous reste un coin au milieu des vaches. On comprend les raisons de cet homme. On les comprend parce que ces raisons, on les partage. Ce sont souvent les nôtres. Cet homme dont la Bible ne parle pas, n'est pas le seul à avoir un quotidien très occupé, très chargé. Mais son cœur, l'état de son cœur, ça nous révèle le nôtre, qui est toujours très occupé, trop occupé à un tas de choses plus importantes que le Sauveur. Je vais me permettre une image qui est peut-être un petit peu osée, mais pensez que s'il n'y a aucune place dans la Bible pour l'histoire de cet homme, c'est que lui n'a fait dans sa vie aucune place pour le Sauveur. Et c'est l'image de ce qui va se passer pour tous ceux qui n'ont pas fait accueil au Sauveur. Ils ne seront pas écrits dans le livre de Dieu. Il y en a qui un jour se retrouveront dehors. La Bible parle d'un lieu de pleurs, de grincements de dents. Mais le Seigneur leur dira : je ne vous ai jamais connu. Pour connaître quelqu'un, il faut lui faire place. Dans son cœur, dans son emploi du temps, dans ses pensées. Et qu'est-ce que ça signifie de faire accueil au Seigneur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on a parlé de place. Il n'y avait pas de place. Donc il faut faire de la place. Mais attention, accueillir Jésus-Christ, ce n'est pas faire une petite place dans un coin quelque part. Ça n'est pas lui réserver un moment dans notre emploi du temps à Pâques et à Noël et le laisser de côté tout le reste de l'année. Ça n'est pas venir à l'église le dimanche et le laisser dehors le reste de la semaine. C'est pas faire appel à lui quand on est dans le besoin et l'ignorer le reste du temps. Ça, c'est exactement la même chose que le mettre à l'étable. Qu'est-ce que cet hôtelier aurait dû faire pour accueillir Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Bien, si on reprend les choses à l'envers, déjà il aurait fallu qu'il y ait une place dans son cœur. Il aurait fallu qu'il soit sensible aux choses de Dieu, qu'il cherche Dieu. Je pense à ce verset du prophète Osée, chapitre 10, verset 12, où Dieu s'adresse à son peuple et lui dit : défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Se défricher un champ nouveau, ça veut dire enlever, arracher tout ce qui pourrait empêcher les cultures de pousser. Quand on se défriche un champ, on va préparer une parcelle de terre pour la rendre propre à la culture. Et si on le rapporte à nos vies, c'est enlever de nos vies tout ce qui nous empêche d'aller vers Jésus-Christ. Que ce soit dans notre emploi du temps, dans nos pensées, dans nos relations. Au lieu d'être absorbé par notre quotidien, faisons de la place pour la prière, pour la lecture de la Bible, que ce soit seul, que ce soit en famille, de préférence les deux. Pour être comme ces personnes dont on a lu l'histoire, qui attendaient le royaume de Dieu, qui attendaient la consolation. Si on ne fait pas de place pour Jésus-Christ dans nos pensées, la place sera inévitablement prise par autre chose. On connaît cet adage qui dit que la nature a horreur du vide, notre emploi du temps aussi. Il sera forcément rempli par quelque chose. Et ces exhortations, elles sont valables pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Mais elles sont aussi valables pour nous, chrétiens, qui connaissons déjà le Seigneur et qui pouvons nous faire rattraper par un quotidien trop prenant. Vous savez, ça arrive que dans la vie chrétienne, au début, on fait de la place au Seigneur, beaucoup de place. On chasse beaucoup de choses. Et puis petit à petit, ces choses, on commence à les reprendre par le menu. Jusqu'à ce qu'il ne reste au Seigneur que la portion congrue. Est-ce que le Seigneur est à l'étroit dans nos cœurs ? Vous Et je pense à Marie et à Marthe. Marie et Marthe. D'un côté, il y en a une qui était assise au pied du Seigneur, qui écoutait. Le Seigneur lui a dit qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui serait jamais ôtée. De l'autre côté, il y avait Marthe. Marthe qui était en train de s'affairer pour préparer de bons petits plats pour le Seigneur. Et on voit à la réflexion qu'a fait Marthe. Son cœur n'était pas tourné vers le Seigneur, il était tourné vers son service. Tandis que Marie, elle était assise, elle a fait de la place dans son cœur et dans son emploi du temps, inévitablement, pour se laisser enseigner par le Seigneur. Et Jésus lui a dit que cette place accordée dans son emploi du temps était préférable à un service, même aussi fougueux qu'il soit. Parce qu'en tant que chrétien, on peut être dans la position de Marthe, avoir plein de choses valeureuses à faire pour le Seigneur, mais se priver de ce qui va donner à ce service sa force, sa substance, son énergie. Passer du temps avec le Seigneur. C'est si en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas de place pour la prière et pour la lecture de la Bible, c'est qu'on est plus occupé que le Seigneur le voudrait. Et je suis persuadé que si Marthe s'était assise avec Marie, au moment où l'heure du repas aurait sonné, au moment où tout le monde avait faim, le Seigneur se serait levé et il aurait aidé à préparer quelque chose. On a vu avec les multiplications des pains, il n'avait pas besoin de beaucoup pour offrir un repas digne de ce nom. Et je suis certain qu'avec l'humilité qu'on lui connaît, il se serait mis derrière les fourneaux pour préparer quelque chose sans râler. D'ailleurs, il n'a pas râlé, il s'est jamais plaint d'être né dans une étable. Jamais. On sait que c'est volontairement, c'est en toute connaissance de cause qu'il a quitté la gloire pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. C'est volontairement qu'il a accepté une vie humble. Il aurait pu réclamer les honneurs royaux, il aurait pu réclamer qu'on l'adore, qu'on se prosterne tous à ses pieds. Il aurait pu venir en majesté, il aurait pu écraser le monde. Mais ça n'est pas la voie qu'il a choisie. Il est venu humblement, il me dit sans éclat, sans apparence, comme la plus humble des créatures. Il a choisi la voie qui ne s'impose pas, la voie qui ne violente pas, qui ne violente même pas la conscience. Il ne force pas, il ne maltraite pas. Mais il implore. Il implore silencieusement. Il implore. Il parle, dit qu'il nous a attirés avec des cordages d'amour. Et je crois que l'exemple du Seigneur nous montre qu'il avait très bien compris quelque chose, c'est que nous ne sommes pas beaucoup plus réceptifs, même pas plus réceptifs du tout, quand c'est un roi ou un président qui s'adresse à nous, qui cherche à nous convaincre. Est-ce qu'on aurait été davantage convaincus s'il s'était présenté en majesté et avec éclat, en demandant, comme c'est son droit, à être servi et à être adoré? Je suis certain que non. J'en suis certain parce que c'est l'actualité qui nous le montre. Notre actualité où il y a des personnes qui portent un gilet jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de classe, on peut dire. Il y en a qui s'adressent à eux avec superbe, à des personnes humbles. Et l'homme est très prompt à critiquer le luxe dans lequel vivent les autorités, que ce soit un roi, un président ou quelque autre personne. Ça fait ce luxe, cette opulence, ça fait d'eux des personnes qui sont inaccessibles. Et le Seigneur n'a pas voulu être inaccessible, au contraire. Il est venu comme le plus humble. Comme le plus humble. S'il était né dans un palais, les bergers n'auraient jamais pu rentrer pour l'adorer. Il écrit que par sa pauvreté, il est venu nous enrichir. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Celui que les chrétiens appellent le Sauveur est né dans une étable. On ne l'a pas couché dans un berceau, mais dans une mangeoire, dans de la paille. Il était entouré par des animaux. Nous, on est habitués à voir l'image de la crèche. Il y a quelque chose qui manque, c'est l'odeur. Dans une étable, ça sent l'étable. Et tout le reste de sa vie a été semblable à sa naissance. Notre texte disait qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors le Seigneur est arrivé dans un monde qui ne l'attendait pas. Il y a grosso modo 2000 ans. La situation en 2000 ans n'a pas changé d'un pouce. La plupart de nos contemporains n'attendent pas Jésus-Christ. Ils n'attendent pas de lui faire une place maintenant. Beaucoup choisissent d'ignorer qu'un jour il va revenir. Je suis heureux que Michel ait choisi le thème du retour du Seigneur. On ne s'est pas concerté pour le faire. Mais je suis heureux qu'il ait choisi ce thème parce qu'il y a un jour où Jésus-Christ va revenir. Et là, ce ne sera plus dans l'humilité. Là, ce sera avec éclat. Là, ce sera en gloire, en majesté. Il va revenir avec ses saints anges, avec les saints. Et il viendra, et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Même ceux qui n'ont pas voulu l'adorer, même ceux qui ne l'ont pas reçu, tout genou fléchira et reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors je vais nous laisser ce matin avec une question, et je voudrais que vous gardiez cette question, j'allais dire que vous y pensiez quand vous aurez un moment calme à tête reposée. Faites-vous un moment où vous serez calme tête reposée pour réfléchir à cette question. Quelle est la place que vous donnez à Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui? Quelle est cette place? Et je voudrais vous lire un cantique. Vous pouvez le lire avec moi dans les recueils avec des cris de joie. C'est le 37A. 37A à la fin. C'est un cantique qui est écrit comme si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui parlait. Il s'intitule « Pécheur, je voudrais te guérir ». Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi, bientôt, dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je serai tout, oui, tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour, devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque à quand devrais-je attendre? Il faut que je demeure chez toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Amen.